Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, à toi dont la citoyenneté sera remise en cause. Parce que tu préfères Gmail à notre webmail national de laposte.net, hein, je te vois. Alors qu'on a payé très cher la reconversion quand même des facteurs en développeurs et en ingé système. Aujourd'hui, nous allons te parler de cloud. De cloud souverain, avec le ridicule d'un mot anglais pour ne pas souffrir de sa risible traduction nuagique. Et souverain, parce que sa conception vient du fait du prince qui a géré avec une légèreté toute royale les caisses nationales sans qu'un cardinal ne vienne le sermonner sur les dites dispendieuses dépenses. Tel que le web fut imaginé au départ, dans une optique décentralisée, le cloud ne devrait pas exister. Si effectivement des services, notamment la gestion de noms de domaine ou les boîtes d'email, sont conçus dans l'idée de serveurs desservant des milliers d'utilisateurs, le premier navigateur web, celui codé par Tim Berners-Lee, permettait à tout un chacun d'éditer n'importe quelle page web et d'en héberger le contenu modifié sur son ordinateur. Mais très rapidement, on est revenu à des notions de serveurs forts, centralisés, douillettement planqués dans des bâtiments climatisés avec redondance de liaisons spécialisées et de lignes électriques. Oui, le mot cloud qui étant à la mode depuis 2006 ne fait que désigner un concept qui est vieux comme les centres serveurs et les très grands ordinateurs omniscients si chers au roman d'Isaac Asimov. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Seulement, sur la plupart des centres serveurs et des services associés que nous utilisons au quotidien, la très grande majorité sont de nationalité américaine. Par exemple, il y a Amazon Web Services pour l'hébergement professionnel, Google Drive pour les suites bureautiques et Facebook pour les réseaux sociaux. Oui, les services Internet posent une question qui est politiquement fondamentale, celle de la souveraineté, de la portée d'une législation nationale, du contrôle des données par les citoyens et des garde-fous juridiques. Or, bizarrement, enfant du futur immédiat, ce n'est pas parce que tes données sont hébergées dans ton pays que tu es plus libre. Prends exemple sur Johnny Hallyday, Jérôme Cahuzac, Yannick Noah et Florent Pagny. Leur domicile fiscal n'est bien évidemment pas en France car...
Mais vous n'aurez pas la liberté de penser.
Et d'ailleurs, une chose qu'on oublie de reprocher aux fameux GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, oui, on a créé une abréviation pour mieux stigmatiser leur complot mondial. C'est le premier amendement à la Constitution américaine, celui qui garantit la liberté d'expression. Un texte fondamental qui fait que pour supprimer des données publiques, l'expression d'une personne, il faut faire intervenir un juge. Sache qu'en France, un tel droit n'a jamais été inscrit dans notre Constitution. Alors, pour s'empresser de nous retirer les droits fondamentaux, alors là, il y a du monde au Parlement. Comment ça, je suis aigri de l'extension de l'état d'urgence ? À peine.
Une formalité.
Enfin, bien sûr. Derrière le cloud souverain, il n'y a pas que ce vieux fond d'anti-américanisme cocardier. Il y a aussi la question de la dépendance à des entreprises étrangères de services importants, voire vitaux pour la nation. Ouais, qui dit étranger dit anti-France et aussi la peur de l'espionnage. Hein. Après tout, Edward Snowden n'a fait que dévoiler au grand public un secret de polichinelle. Les grandes oreilles américaines de la NSA piochent allègrement dans le contenu des services hébergés chez eux pour mettre tout le monde sur écoute. Oui, les GAFAM sont méchants parce qu'ils sont américains. Ouais, comme si en France, on n'avait pas la loi renseignement et ses séides. Comme si les services de renseignement ne se partageaient pas déjà allègrement entre copains tout ce qu'ils récoltent massivement chacun de leur côté. Bref, argument nul et non avenu. Alors, promouvoir un cloud souverain, est-ce une manière de créer quelques emplois localement ? Je dirais bien oui, mais en réalité, vraiment que quelques. Un data center, une fois construit, ne requiert pas plus d'une dizaine de salariés. Mais il est vrai que, par exemple, Facebook a son premier data center non américain en Suède, deux sont prévus par Apple en Europe, Microsoft en prévoit trois, et il est question d'un troisième centre européen pour Amazon Web Services, après l'Irlande et l'Allemagne. En fait, le problème levé par des prestataires extérieurs à nos frontières est l'impossibilité pour nos acteurs nationaux industriellement lourdingues de répondre aussi bien commercialement qu'en efficacité. Je ne parle pas d'OVH, Chicoula, Gandhi ou notre invité FullSave. Je parle de nos glorieuses nationales de S2I, ESN, comme Bull, Atos et Capgemini. Orange SFR aussi, hein, par la même occasion. Eux qui, eux-mêmes, s'affranchissent des standards auxquels sont conformes les mieux-disant qu'eux, mais étrangers aux jeux de place plat entre fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui pantouflent chez les 10 champions du CAC 40, ce qui récolte un nombre record de commandes publiques et que certains soupçonnent de dopage. Reparlons ainsi du gars cuisant arrivé en juin 2013, à midi, comme par hasard, dans le data center de Bull qui hébergeait le service Chorus. Alors Chorus, c'est le logiciel comptable de l'État. Figurez-vous que le ministère du budget ne pouvait plus effectuer une seule opération bancaire pendant une semaine. L'État n'était plus capable d'effectuer le moindre virement ou encaissement. Bercy était à sec. Le serveur Chorus était tombé pour une histoire de coups de perceuse. Ouais, des particules fines comme ça qui sont allées déclencher l'alarme incendie, parce qu'évidemment c'est le même alarme incendie entre les bureaux et la partie serveur. Bah tiens, officieusement, une alarme incendie d'un bureau s'était déclenchée suite à un barbecue sur le parking. Heureusement pour Bull que, vu la criticité du système, il y avait obligation de tenir une machine à plus de 300 km avec les données copiées en permanence. Ce serveur de secours était installé exactement en dessous du serveur principal, noyé lui aussi sous les sprinklers. Belle douche froide pour la réputation de glorieuse Cloud souverain, et pourtant on n'avait pas encore vu les non-preuves de CloudWatt et Numergy, eux aussi bien coulés. Comment peut-on justifier qu'en payant plus cher avec des sous-traitants de bien moins de qualité, on gagne en souveraineté numérique? Surtout qu'au final, les 10 prestataires utilisent rarement du matériel français, mais plutôt d'importation américaine ou chinoise. Le processeur vient de chez Intel, le routeur vient de chez Cisco. Et les 10 opérateurs finissent par installer des logiciels aussi opaques que ceux de leurs concurrents non français. Et comme ils n'arrivent pas à les faire tourner, les frais de maintenance dérapent plus sérieusement que les coûts du porte-avions Charles de Gaulle. Pauvre France, pauvre French Tech. L'étape suivante sera l'OS souverain. Mais comme nos visages sont rougis présentement à force de se mettre des claques de rire, nous gardons un peu de notre mauvaise foi pour une prochaine fois. Enfin du futur immédiat, au lieu de se plaindre que les pays étrangers menacent par leur savoir-faire notre indépendance, je vais te rappeler ce truisme. L'innovation ne se décide jamais par une décision bureaucratique. Or, les faits ministériels qui ont présidé à la naissance du cloud souverain ont vite fait d'aller voir ailleurs avant la première nuit.